Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Êtes-vous inquiet pour l'approvisionnement en énergie des foyers dans les prochains mois ?
Oui, on peut s'inquiéter pour la fourniture en énergie, mais en même temps, je pense qu'il y a des solutions. Il y a eu un manque d'anticipation du gouvernement sur un certain nombre de questions. Oui, on peut s'inquiéter, mais faut pas non plus en rajouter, comme peut le faire le président de la République ou le gouvernement, en essayant de culpabiliser tous les citoyens, alors que les responsabilités en matière d'énergie sont plutôt de ceux du côté des grandes entreprises qui accumulent les profits plutôt que des citoyens et dont un certain nombre ne savent pas ce que c'est que la sobriété ou plutôt la connaissent puisqu'ils sont toujours en état de sobriété énergétique.
Et justement, est-ce que le président de la République a raison toutefois lorsqu'il demande aux Français un peu de sobriété en la matière, régler le chauffage plus bas, ne pas abuser de la climatisation pour ceux qui en ont, parce que c'est vrai que c'est pas très répandu.
C'est une forme de déconnexion de la réalité et du vécu de millions de foyers. Je vous le dis, ceux qui sont privés d'emploi, ceux qui gagnent 700 euros par mois, la sobriété, ils sont même en dessous de la sobriété. Donc, par contre, oui, il y a des abus, il y a de l'abondance parmi les très, très, très riches. Et donc, le message du président de la République devrait plutôt s'adresser vis-à-vis de ceux qui profitent de cette crise pour gagner beaucoup d'argent plutôt que d'essayer de culpabiliser les citoyens.
Oui. On observe déjà des conséquences économiques pour les entreprises qui voient la facture d'énergie exploser. C'est le cas, par exemple, du groupe Duralex, dont on a parlé la semaine dernière. Est-ce que vous pensez qu'il faut se préparer à des défaillances comme ça, en série, d'un certain nombre d'entreprises, notamment dans le milieu industriel ?
En tout cas, il faut prendre des mesures. Par exemple, vous citez, c'est le cas en général de gros consommateurs d'énergie comme les fonderies, Duralex, Arc.
Oui, fabricants de verre, oui.
Ouais, ouais, de verre, où les carnets de commandes sont pleins et où on peut pas travailler. Moi, je pense déjà qu'il faut protéger les salariés. Ils vont être au chômage partiel, payés à 84% de leur salaire. Alors que depuis des mois, avec le confinement, etc., ils ont déjà subi. Vous voyez, eux, ils ne sont pas dans l'abondance. Donc déjà, sécuriser les salariés. Les salariés, payer à 100%. Et puis après, regarder des mécanismes qui permettent que les factures d'énergie, pour un certain nombre d'entreprises, ne soient pas multipliées par 10 ou par 20.
Il y a aussi des conséquences inattendues. On l'a appris hier, un certain nombre de piscines, une trentaine, dès hier, ont fermé leurs portes au motif que ça coûte trop cher de les chauffer. C'est très pénalisant, ça aussi, pour les foyers, aussi pour les enfants aussi, qui normalement vont d'ailleurs avec les écoles toutes les semaines à la piscine.
Oui, on va priver les enfants d'aller à la piscine, d'apprendre à nager. Vous avez certainement noté que c'est aussi des groupes privés qui, sous prétexte réel de flamber des prix de l'énergie, ferme les piscines. Là aussi, premièrement, il faut revoir, peut-être qu'il faut certainement revoir la politique en matière de piscines et que ça revienne dans le service public et non pas des délégations de service public, contrôler un peu les finances de ces groupes et puis anticiper. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un manque d'anticipation. Au-delà de la réalité de la crise ukrainienne et de la guerre en Ukraine, c'est un manque d'anticipation. On le voit bien ce qui se passe au niveau des centrales nucléaires avec l'arrêt de près de la moitié du parc.
Dans ces villes où les piscines étaient en effet dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession, vous attendez des municipalités qu'elles reprennent les choses en main ?
Il faut
qu'elles cassent éventuellement ces concessions ?
Il faut une vraie réflexion au niveau des municipalités pour que ces délégations de service public, elles ne servent pas à enrichir quelques groupes privés, ce qui est la réalité aujourd'hui. Et puis une réflexion au niveau du gouvernement sur l'utilité des services publics et un peu sacraliser un certain nombre de services publics plutôt que de les donner clé en main avec à des groupes privés.
Elisabeth Borne a annoncé que les discussions sur la réforme des retraites allaient démarrer après le lancement du Conseil national de la refondation qui aura lieu le 8 septembre, après-demain donc. Nous souhaitons, a-t-elle dit, avancer, mais on est aussi dans une démarche de concertation, d'écoute, de recherche d'un chemin. Il faut qu'on ait ces discussions avec les organisations patronales et syndicales et avec le Parlement. Est-ce que vous êtes-vous ouvert à la discussion ?
Pour l'instant, j'entends beaucoup de messages, mais c'est jamais les mêmes entre ce que dit le président de la République, la première ministre et les ministres. Pour l'instant, on n'a pas de rendez-vous. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup discuté de retraite. Personne n'a oublié les années 2019-2020 avec les conflits. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que la concertation. Si c'est nous inviter dans un bureau, nous écouter, fermer la porte et faire ce qu'on avait décidé avant de nous voir, tout est sur la table sur la retraite. En tout cas, pour nous, pas question d'allonger l'âge de départ de la retraite. Voilà, ça c'est clair.
Et pourtant, c'est ce dont il est question dans l'esprit du président de la République et du gouvernement.
Oui, mais là aussi, c'est une forme de déconnexion de la réalité. Je cite souvent cet exemple, imaginez personnel dans les EHPAD qui aurait le même âge que les résidents. Qu'est-ce que ça donnerait en matière de conditions de travail, etc. Je pense qu'il y a une négation de la réalité du travail et c'est ça qu'il faut remettre en ordre.
Qu'est-ce que vous attendez de ce Conseil national de la refondation qui sera donc mis en place après-demain? Est-ce que vous avez l'intention d'y participer?
Écoutez, nous allons décider tout à l'heure là, dans notre exécutif. Pour l'instant, voyez la concertation. Pour l'instant, nous connaissons le lieu. C'est le Centre national de rugby. Peut-être que c'est un message subliminal pour une entrée en mêlée, je ne sais pas. On connaît l'heure du début et l'heure de la fin. On ne connaît pas le programme, on ne sait pas qui va intervenir. J'ai entendu qu'on allait avoir une introduction du président de la Banque de France. Pourquoi? Comment? Donc on ne sait rien. C'est un peu difficile de concevoir le dialogue social quand on vous dit vous venez à telle heure, à tel endroit, et vous essayez et on verra ce qui se passe.
Vous n'aimez pas les surprises?
J'aime que les bonnes surprises, mais pour quelqu'un comme le président de la République qui dit « j'ai changé, je vais écouter », pas une réunion de préparation, pas plus d'informations sur qui sera autour de la table. Ça me paraît mal engagé.
Autre réforme à risque pour le gouvernement, celle de l'assurance chômage qui sera présentée demain en Conseil des ministres avant d'être examinée à l'Assemblée nationale la première semaine du mois d'octobre. Le gouvernement voudrait pouvoir moduler les indemnités en fonction de la conjoncture économique. Quand ça va bien, on durcit les règles et quand ça va mal, on les assouplit, expliquait Olivier Dussopt à la fin du mois de juillet. Est-ce que ce ne serait pas finalement un fonctionnement de bon sens?
Pas du tout. Le gouvernement et le président de la République doivent considérer que ce sont les chômeurs qui vivent dans l'abondance. Quand on sait que plus d'un chômeur sur deux ne touche rien en allocation, ça c'est la réalité. La question c'est comment on leur trouve du boulot, un boulot lié à leur qualification, et pas le message qui consiste à dire... vaut mieux un petit boulot que pas de boulot du tout. Ça, c'est pas une logique digne d'un pays comme la France. Mais là aussi, on parle de concertation, de dialogue. Tous les syndicats sont contre cette réforme. Et pourtant, le gouvernement et le président de la République continuent à avancer comme si tout allait bien et qu'il y avait eu des fameuses concertations et du dialogue. C'est une façon de gouverner qui n'est plus acceptable.
Ouais. Dans ce contexte donc d'inflation, d'inquiétude sur l'énergie, les Gilets jaunes pourraient faire leur retour le week-end prochain. Un appel à manifester à Paris le 10 septembre est très largement relayé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous semble que aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour le retour de ce mouvement ?
En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour que il n'y ait pas de mouvements dispersés, mais qu'il y ait des mouvements unis. Vous savez que nous appelons, avec d'autres organisations syndicales, une journée de mobilisation le 29 septembre. Il faut, plutôt que se diviser, il faut se rassembler, converger et dire au gouvernement et au patronat, il y a une urgence. C'est l'augmentation des salaires et des minima sociaux et non pas l'exclusion, comme nous l'avons évoqué avec la réforme de l'assurance chômage.
Mais vous attendez beaucoup de la rue dans les prochaines semaines, dans les prochains mois?
On sait bien, et toute l'histoire de notre pays le montre, que quand les citoyens se bougent, se rassemblent dans la rue, mais aussi pour ceux qui travaillent dans leur entreprise, par des arrêts de travail, en général, ça change les choses.
Merci Philippe Martinez,
bonne journée. Merci à vous.